Décidément, avec la poésie vidéo, on s'éclate. En témoigne la rencontre débat proposée le 11-11-11 dans le cadre de la 24e édition des Instants Vidéo, une table ronde intitulée « Les œuvres bombes ».
6, 5, 4, 3, 2, 1...
L'occasion d'un florilège de récits dans lesquels des artistes voient débarquer la marée chaussée prenant leurs œuvres pour des entreprises terroristes. On y entend les artistes Alain Declercq et Pascal Lièvre, en compagnie de Michael Lachance, enseignant à l'université de Chicoutimi au Québec, auteur de « Œuvres bombes et bioterreur, l'art au temps des bombes ».
Est là, qui donc s'efforce de retracer un certain nombre de poursuites, enfin d'affaires, concernant donc la production artistique et le harcèlement juridico-policier dont il peut être victime, et en même temps comment les artistes, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est comment les artistes peuvent également positionner leur travail par rapport aux médias, par rapport au pouvoir en place, aussi bien municipaux, politiques, au niveau étatique également. Enfin. Donc je vais commencer avec l'évocation d'une œuvre d'un artiste israélo-suédois, enfin c'est un tandem, Dror et Gunilla Feiler, qui était présenté à Stockholm en 2004. Stockholm a pensé, les différentes galeries, centres d'art de Stockholm ont pensé qu'en parallèle avec un événement important, qui était un grand forum, sur l'histoire des génocides, entre autres, qu'il serait intéressant d'avoir des manifestations artistiques. Il y avait un forum aussi très important sur le plan de la diplomatie sur la paix dans le monde, où de plusieurs pays étaient représentés par des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs et autres, et Israël était en train de négocier sa participation avec... dans cet événement, dans la mesure où la condition expresse, ce serait qu'il ne serait jamais mentionné, qu'on ne mentionnerait jamais la Palestine. Donc, bien évidemment, lorsque Dror et Gunilla Feiler ont présenté cette œuvre, où on voit dans un étang couleur rouge sang flotter le visage d'une terroriste, martyr palestinienne, le tout accompagné d'une cantate de Bach qui est intitulée « Mon cœur nage dans le sang ». Et avec sur les murs les noms de toutes les victimes de cet attentat à Haïfa. On pouvait effectivement attendre une réaction peut-être une réaction de la part de l'ambassadeur israélien, comme vous allez voir. Et ce qui est arrivé, bien entendu, donc ce que l'on pouvait attendre, mais qui était quand même surprenant quant à la forme que ça a pu prendre, c'est comment l'ambassadeur Zvi Matzel, visitant le musée des Antiquités, a entrepris de détruire l'œuvre. Donc, 16 janvier 2004, il arrive et il débranche tout, quoi. Et qui les balance en provoquant des chocs électriques et ensuite explique que c'était une invitation au génocide et qu'il était impossible pour lui de laisser passer un tel affront. Ça a été quelque chose de commenté en très haut lieu, puisque le Premier ministre israélien en a parlé, puisque les ambassadeurs suédois en ont parlé. Enfin, ça a été un événement de portée internationale, c'est-à-dire dans les annales, si vous voulez, des crises provoquées par des artistes, je pense qu'il est incontournable. Un deuxième épisode important, donc j'aimerais vous parler un peu plus récent, celui-ci, mais qui prend son origine également en 2004, c'est celui de Stephen Kurtz, un beau matin, se trouve plongé en pleine tragédie, personnelle d'abord, puisque son épouse, qui est également sa collaboratrice, est décédée pendant la nuit d'un arrêt cardiaque. Donc, c'est totalement désemparé. Il appelle les paramédicaux, qui arrivent et qui constatent le décès, mais qui en même temps visitent un peu la maison et qui voient que, par exemple, il y a une chambre dans laquelle les carreaux sont couverts de papier aluminium pour bloquer la lumière. Et par ailleurs, dans cette pièce, il y a aussi des boîtes de pétri, il y a des appareils étranges, il y a des cornues. Enfin, donc, il y a une espèce de laboratoire qui est là. Et alors, ils alertent le FBI. Le FBI arrive promptement, constate effectivement qu'il y a là quelque chose qu'on n'attend pas dans une résidence. même si on a beau expliquer, ce monsieur est un artiste, il travaille aussi avec, par exemple, les organismes génétiquement modifiés, il invite des gens dans des manifs d'apporter leurs légumes pour qu'on voit si l'ADN de ces plantes ont été modifiées. Enfin, donc il travaille donc avec des technologies, et donc il travaille chez lui. Alors on dit, mais oui, mais si. Si ce monsieur s'intéresse à ces choses, comment ça se fait qu'il n'a pas un laboratoire à l'université? Dans quel cadre il peut faire ça? Et puis en quoi est-ce qu'un artiste fait de la science? C'est pas normal. Donc effectivement, ça tient pas debout pour eux. Et ils appellent une unité invoquant le Patriot Act qui boucle le quartier au complet et qui fait que la maison de Steven devient une espèce, si vous voulez, de bombe à retardement qui doit être désamorcé par des spécialistes qui arrivent expressément habillés de hazmat suit, hazardous materials suit. Donc c'est passé en direct à la télévision, sauf que quand je vous dis que c'est une tragédie qui s'est tirée effectivement de 2004 à 2008, puisque sur le champ ils ont confisqué le corps de Hope, ils ont multiplié les dissections, ils ont absolument voulu prouver que Hope n'était pas morte d'un simple arrêt cardiaque. Donc un groupe d'artistes, Critical Art Ensemble, qui travaille vraiment au cœur des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Enfin, par exemple, la question du biopolitique, depuis Michel Foucault, celle du post-humain, sur donc, cette idée que le vivant est une propriété de l'État, c'est-à-dire votre corps ne vous appartient pas, qu'il n'est qu'une combinaison d'organes, lesquels sont interchangeables et... Sont des éléments dans une machine biotechnologique plus large qui s'appelle la consommation, qui s'appelle la production, qui s'appelle aussi le pouvoir, finalement, de façon plus générale. C'était enfin, après, faute d'avoir trouvé Ben Laden, on avait trouvé le Ben Laden intérieur qui appartenait à la gauche radicale. Des artistes du Critical Art Ensemble, enfin de différents groupes, Autonomedia Series, enfin donc les différentes, une certaine mouvance de la gauche radicale américaine était déclarée donc antipatriotique.
The situation began last week when Dr. Kurtz called authorities and said his wife had died. Medical professionals believe she died of natural causes. While in the house, they found the bacterial cultures Kurtz said he used as an artist. Medical professionals, police, and FBI agents closed down College Street to investigate any potential threat to the public. Some neighbors say they're relieved to hear the cultures weren't dangerous.
Ça a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire au bout de plusieurs mois, presque, je pense à un an, ils ont laissé tomber les accusations enfin, qu'on pouvait attendre de bioterrorisme, mais ils ont trouvé quelque chose de beaucoup plus malin qui consistait à déclarer Steven Kurtz coupable de mail and wire fraud. Et là, ce sur quoi ils se sont attardés, c'est que les boîtes de pétri qu'ils ont trouvées, ils en ont cherché la provenance et ils ont pu remonter jusqu'au laboratoire de Robert Farrell, qui était donc rattaché, directeur d'ailleurs de Human Genetics à l'Université de Pittsburgh. Et il y a une réglementation qui, j'imagine qu'en France ça doit être pareil, qui contrôle très minutieusement les déplacements des bouillons de culture, enfin des boîtes de pétri, et qui demande donc que seules les institutions puissent donc acquérir certaines... avec donc la stratégie de harceler Kurtz et de donner un signal clair à tous les artistes qui veulent travailler dans ce domaine-là et qui veulent jouer avec ce genre de choses-là, qu'ils seraient donc en prise d'une poursuite, qu'importe la poursuite, qu'importe les chefs d'accusation, nous allons vous poursuivre, on ne vous lâchera pas, nous on a des équipes d'avocats, n'en plus finir, qui ne demandent que ça, vous on va vous ruiner. On va vous ruiner, vous allez perdre votre maison, vous allez perdre votre boulot, etc. Donc ça vous coûtait tellement cher qu'on va faire un exemple de vous. Et ce qui a provoqué, et là je vais juste le mentionner en passant, parce que ça c'est important, et je pense que nos amis artistes ici auraient quelque chose à dire là-dessus, c'est que il y a eu des poursuites du FBI contre des scientifiques qui ont été soupçonnés éventuellement dans leur laboratoire d'apporter ou de trafiquer avec de l'anthrax, enfin des formes extrêmement virulentes. Mais ces gens-là n'ont pas survécu au harcèlement juridique dont nous parlons. Nous, on a le plaisir de dire, oui, Kurtz, en 2008, ça va, c'est tombé, et puis maintenant, il continue à travailler comme artiste, tout ça. Il y a des gens qui ont été complètement écrasés par ça. Vous avez vu ce qui se passe avec Ai Weiwei en Chine en ce moment, c'est-à-dire que, encore une fois, on n'attaque pas Weiwei en disant vous tenez un propos séditieux, anti-gouvernemental, et c'est pour ça. Non, on lui dit t'as pas payé tes taxes, quoi. C'est une forme de criminalisation. La dissidence, il ne s'agit surtout pas de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'appelle dissidence politique ou, comment dire, quelque part, activisme à caractère culturel et politique, mais on s'emploie simplement à criminaliser, à vous criminaliser, mais de façon la plus médiocre, mais qu'importe.
En 2005, j'ai fait une vidéo qui s'appelait UMP, un mouvement populaire, qui était la reprise d'un petit clip de campagne de Nicolas Sarkozy.
Pascal Lièvre.
Qui montrait des discours de Nicolas Sarkozy, je crois que c'était dans une grande salle comme le Palais des Congrès, ou je ne sais plus très bien, mais qui était un discours très important pour lui. C'est un discours qui allait amener ensuite à prendre l'UMP et ensuite donc à devenir le président de la République. Et donc, dans ce clip de campagne, il y avait, entre chaque petit morceau où on voyait Sarkozy parler, il y avait des Français. Donc, ils avaient fait une sorte de panel de Français, donc de tous les âges, les couleurs, etc., qui, au début du clip, souriaient un petit peu et qui, au fur et à mesure donc de 5 minutes de Sarkozy, souriaient de plus en plus pour avoir à la fin des dents absolument magnifiques et des bouches complètement... Voilà. Et moi j'ai juste gardé la structure de la vidéo, c'est-à-dire j'ai gardé le générique et j'ai gardé les extraits où parlait Nicolas Sarkozy, mais à la place de j'ai remplacé ces Français qui souriaient par juste des Français qui pleuraient. C'est pas grand-chose. Le fisc, en tout cas, le fisc donc est arrivé à la maison pour me faire un contrôle fiscal à la fois sur mes biens personnels et, comme j'avais une galerie à Hong Kong aussi, essayer de savoir si j'avais un compte à l'étranger, éventuellement un compte en Suisse. Mais par contre, ce qui était quand même assez impressionnant, c'est qu'ils sont allés vérifier dans tous les musées ou les fracs qui m'avaient acheté des pièces. Ils sont vraiment, à chaque fois, ils ont envoyé une brigade avec deux, trois personnes pour bien vérifier que tout avait été fait en ordre, que j'étais pas quelqu'un qui trichait, etc. etc. Et bon, j'étais très surpris de ce truc-là, hein, vraiment. Et voilà. Et il y a très peu d'artistes en France vraiment qui sont contrôlés fiscalement, et en tout cas pas des gens qui gagnent ce que je gagne. Donc c'était sûrement lié à ça.
Ça, je voulais mentionner parce que c'est un des étudiants de Kurtz qui, à un moment donné, est allé tout simplement faire une petite performance dans un endroit très bien choisi. C'est devant le bureau de recrutement.
Michael Lachance.
Vous êtes toujours surpris des titres, enfin des chefs d'accusation qui sont portés sur vous, qui sont jamais ceux que vous croyez. C'est toujours à côté. C'est la stratégie. Il faut jamais qu'on vous accuse parce que ça, à ce moment-là, c'est vous donner de la publicité, c'est vous donner de la visibilité. Alors lui, savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont tourné autour de lui et lui, il a repris donc l'image de Abu Ghraib qu'on connaît, du bonhomme qui a été donc torturé avec des fils électriques au poignet. Et puis, ils ont tourné autour, ils ne savaient pas trop quoi faire et finalement, ils ont trouvé. Ils l'ont arrêté comme quoi c'était « bogus explosive ». C'est-à-dire que donc les fils qui pendent de ses poignets pouvaient effectivement être connectés à une bombe qu'il cachait sous, qu'il cachait sous sa cape. Donc, vous voyez, donc l'image est explosive en cela, qu'effectivement, on savait très bien qu'il n'y avait pas de bombe sous la cape, mais qu'à ce moment-là, il y avait allure de, hein, apparence de, et qui donnait à ce moment-là la base nécessaire pour l'arrêter et le coffrer. Joseph Previtera, donc ici même dans ce festival, on avait une vidéo de Mounir Fatmi. Ce que je veux tout simplement indiquer, c'est comment, effectivement, à ce moment-là, il y a une forme de carnavalisation du pouvoir, où le pouvoir lui-même se cache toujours derrière des prétextes qui ne sont pas, c'est-à-dire ne dénonçant jamais les gens pour les raisons précises à travers lesquelles ils pourraient les trouver dangereux ou inconvenants, etc. Et toujours dans une espèce de comédie, finalement, qui met en jeu un théâtre de la sécurité. C'est ce qu'on va voir après, c'est-à-dire qu'il s'agit donc, avec le Patriot Act, de créer ce qu'on pourrait appeler la comédie de la peur, et d'appeler à travers cette comédie de la peur une autre comédie qui s'appelle la comédie de la sécurité.
Man, that's smoking enjoyment. Boy, that's good.
Relax.
It's light of time.
Et le dernier projet de Critical Art Ensemble, Dirty Bombs, encore une fois, pour désamorcer le spectre de la bombe radioactive portative là, qu'on peut avoir dans sa valise, qu'on peut se mettre en plein centre-ville et faire sauter donc, une petite bombe nucléaire. Et donc elle est sale dans le sens où c'est une alliance entre un explosif et des particules radioactives. Donc ce projet, il a été mené à travers Radiation Burn. Je vais vous montrer quelques images. D'abord, vous indiquez qu'un des grands terroristes arrêté sous le nom de Dirty Bomber, donc José Spadilla, est toujours détenu, qu'il a été détenu sur la base de projets qu'il aurait eu de construire une bombe sale, lesquels ce projet, ce témoignage a donc été recueilli sur des bandes vidéo, mais on a perdu les bandes vidéo, c'est très embêtant. Par contre, un ordre émanant directement du président qui s'arroge à ce moment-là des pouvoirs militaires, on fait en sorte qu'il soit incarcéré. Et donc, si on veut le libérer, ça veut dire qu'on conteste le pouvoir du président en tant que chef militaire. Donc, est-ce que le président des États-Unis est un chef militaire en soi? Et à ce moment-là, il y avait une impossibilité de faire marche arrière. Ce qu'on a vu effectivement avec le cas de Kurtz, c'est-à-dire que quand la machine est lancée, elle est extrêmement lourde, hein, c'est presque impossible à arrêter. Pour ce qu'il en est de Padilla, le Dirty Bomber, il est encore en prison. Ici, nous avons donc la préparation de la bombe sale. Donc l'explosif, c'est un cône qui est enterré. Et donc c'est creusé, c'est quand même un trou conique dans la terre. L'explosif est au fond. On met la poudre par-dessus. Et donc, vers la fin de l'exercice, ils ont mis un petit podium et ils ont donné la parole à Dr. Wolf, qui disait, je peux vous dire en tant que physicien qu'il y a une perception tout à fait inexacte de ce qu'est véritablement la nocivité d'une telle bombe, que c'est plutôt une bombe panique. On peut parler à ce moment-là d'outils de masse, non pas de mass destruction, mais de mass disruption, de disruption. C'est-à-dire donc, c'est un outil panique dont les effets, l'impact militaire est minimal, mais les effets sur les populations sont maximaux. Et comment, finalement, il est surpris, comment se fait-il qu'à l'ère des technologies nucléaires, qu'il y a une telle désinformation sur la réalité du nucléaire, c'est-à-dire là où elle est, on l'a dit, inoffensive, elle est peut-être beaucoup plus dangereuse, et là où on l'a dit dangereuse, elle ne l'est pas. Et d'ailleurs, donc j'ai juste une petite vidéo pour que vous puissiez avoir le plaisir de l'avoir sauté, cette petite bombinette, quand même.
Schmutzige Bombe ist ja. Wie lange machen Sie denn das? Die Übung.
Das sind die Detektor der Radioaktivität.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Quand même sur le plan artistique, c'est quand même très beau.
Pascal Lièvre.
Il y a aussi pas mal d'artistes qui travaillent sur l'explosion. Enfin, je ne sais pas si ça ressemble vachement à ça. Donc, il y a surtout un artiste qui s'appelle Cao Xiuxiang, je ne sais pas tout à fait comment on le prononce, mais qui est un artiste chinois, qui, donc déjà c'est un artiste chinois, c'est intéressant, qui travaille qu'avec la poudre explosive. À la fois il fait des sortes de brûlures sur des papiers comme des dessins, mais surtout, là c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il fait aussi des feux d'artifice, en reprenant cette vieille tradition chinoise. Mais pareil, il en fait par exemple de très très impressionnants, qui sont des feux d'artifice noirs. Donc vous avez comme ça, dans le ciel, sorte d'explosion de noir, et ça fait comme un lavis qui coule dans des ciels gris qui sont absolument impressionnants. Et il a notamment fait aussi le drapeau chinois qu'il fait exploser en une seconde, et donc vous avez vraiment le drapeau chinois qui est fait qu'avec des explosifs et il explose, et ça c'est très très puissant, ça fait penser à des choses comme ça. Ou un autre artiste qui s'appelle Roman Signer, qui a passé une partie de sa vie à faire exploser que des choses absurdes et idiotes. C'est aussi, moi, j'avoue, j'aime beaucoup ça.
Il y a une ambiguïté très grande, je pense, dans le travail de l'artiste que vous mentionnez. C'est le fait qu'en même temps, c'est un artiste officiel, dans le sens où tous les grands événements d'inauguration, anniversaire d'une grande ville, enfin, par exemple, il va être convié à composer un feu d'artifice comme une œuvre.
Michael Lachance.
Et tout à la fois, il a un autre travail où, ce qu'il avait mentionné aussi, tu l'as mentionné, où il va dessiner, mais il va utiliser la poudre, la violence, pour la dénoncer, pour marquer comment elle inscrit le temps, comment elle marque les choses et comment toute tentative de dire les choses n'est toujours qu'une destruction du matériel. Je voudrais faire remarquer à ce propos-là, effectivement, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, à savoir que la dimension de recherche, ce qui est de l'ordre de l'acquisition du savoir et aussi à travers les pratiques de savoir-faire, ça, c'est de plus en plus quelque chose qui vient appartenir aux corporations. Donc l'idée que Kurtz, par exemple, Kurtz avait un petit labo chez lui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous ne faites de recherche que si vous avez des attaches institutionnelles ou institutionnelles à travers des méga-corporations avec lesquelles vous avez signé des contrats de divulgation des résultats. Donc quiconque engage, et vous me direz c'est caricatural ce que je dis là, mais j'en ai vu trop d'occurrences, c'est-à-dire quiconque engage une recherche à titre individuel et apparaît suspect. Et il y a donc aussi cette dérive de ce qu'on appelle la culture. La culture, ce n'est plus l'écoute, la réception des œuvres, mais c'est le mode de vie. Mais l'art aussi, il y a une dérive où l'art devient de plus en plus public. Et à ce moment-là, c'est de l'art qui n'y a d'art que des méga-projections payées par la mairie, avec le diaporama qui raconte l'histoire de la région, ce genre de choses. Et à ce moment-là, l'art individuel... Et la priorité de l'individu face au collectif apparaît de plus en plus suspecte.
Alain de Clercq.
C'est que, évidemment, dans ce genre de manifestation, comme Nuit Blanche, etc., il faut faire des choses qui heurtent pas, qui ne soient pas ni politiques, ni sexuelles, ni électriques. Enfin, quand je dis électrique, pas un fil qui pendouille par terre, quoi. Donc ça impose un certain nombre de normes qui voilà, donnent une plastique très aboutie, très professionnelle, quoi.
Et plus on travaille à grande envergure, plus on est exposé à ce moment-là à ces contraintes de sécurité, et plus on doit se plier à celles-ci, et dans quelle mesure ces contraintes de sécurité viennent finalement formater la nature de votre travail.
Chacun de nous, en fait, on essaye de trouver des parades. Et par exemple, toi, Pascal, tu as trouvé une parade aussi à un certain nombre de problèmes que posent tes vidéos sur l'utilisation du matériau des autres. Tu racontes ça ?
Bon ben voilà, moi je travaille surtout avec des informations des autres, hein, donc de la musique, des textes, des images, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes de ma génération. Mais simplement, on n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire que c'est interdit. Il faut demander l'autorisation aux auteurs pour utiliser une musique. C'est très très compliqué, voire quasiment presque impossible. Donc il est quasiment presque aujourd'hui impossible d'utiliser des œuvres qui font partie de la culture populaire. Pour moi, ce sont des formes plastiques, et je vois pas pourquoi est-ce que ces formes plastiques, elles devraient obéir à un droit de propriété privée. Donc, je suis allé voir il y a des années, pour ma première vidéo, je suis allé voir un avocat qui m'a trouvé la seule chose qui était possible en restant légal, c'était donc d'invoquer le droit de parodie. Donc le droit de parodie, c'est quoi? C'est le droit d'avoir, de pouvoir se moquer des autres sans leur autorisation. Donc ça semble être logique en soi. Donc j'ai placé tout mon travail plastique, moi, sous l'angle de la parodie. C'est-à-dire que toutes mes pièces, toutes mes œuvres sont en soi, d'un point de vue légal, parodiques. Voilà. Donc c'est une manière de pouvoir se positionner dans le seul espace de liberté qui est donné encore pour des artistes qui s'intéressent aux formes plastiques des autres. C'est donc ce territoire-là qui, pour moi, est le territoire de la démocratie. La parodie, pour moi, c'est une feinte, en effet, pour pouvoir combattre quelque chose qui, pour moi, est absolument important, qui est... Moi, je suis quelqu'un qui me bat contre la notion même d'auteur. Enfin, je pense qu'être l'auteur, c'est la propriété privée dans l'art. C'est quelque chose qui est un cauchemar, qui aliène l'art, qui empêche les artistes de travailler, qui est une chose absolument terrifiante. Donc voilà, c'est une feinte.
Après, là, on parle de stratégie de contournement, en fait. Là, ce que tu nous montres depuis tout à l'heure, c'est plutôt des problèmes qui sont liés à la sécurité de l'État, enfin, liés à l'État, d'une manière générale. Toi, tu touches plus le domaine privé, de la chanson, du droit d'auteur, etc. Mais finalement, moi, par exemple, tu as montré tout à l'heure Barbie entourée de dynamite. Ça, je suis très étonné que Barbie n'ait pas porté plainte, quoi. Parce que, enfin, moi, je connais un artiste qui a utilisé une Barbie dans une pièce. Et Barbie a tout de suite, Mattel a tout de suite porté plainte. C'est une difficulté aussi d'utiliser. Donc là, c'est un peu différent parce que là, on n'est pas dans la sécurité publique, quoi. Enfin, comme, étatique.
Comme Pascal, en même temps, le mentionne à l'instant, c'est cette appropriation de tous les objets de la vie quotidienne par des corporations qui. Tels que le bleu Pepsi, c'est un bleu qui appartient à Pepsi, le rouge Coca-Cola, c'est un... Donc les couleurs, maintenant, il y a une espèce de dépôt, que ce soit donc un organe, que ce soit une molécule au niveau, je ne sais pas moi, des transplantations, un geste.
Le geste, oui, il y a une très belle pièce là, de Julien oui. Prévieux, où il a comme ça fait des dessins avec tous les gestes qui sont interdits, enfin, ouais. En tout cas qui sont...
For the taste that you like, light up a lucky strike.
Right now.
Light up a lucky. It's light up time.
Il s'est privatisé, donc à ce moment-là, on calibre le comportement des gens en société, non pas en leur disant ceci est permis, ceci ne l'est pas, mais en disant ceci appartient à un tel et vous ne pouvez pas transgresser.
Avec souvent à la tête de ce truc-là, même des artistes, parce qu'il y a une histoire incroyable avec Anna Teresa de Kersmaeker, donc qui est une danseuse flamande, qui a attaqué la chanteuse Beyoncé, parce que Beyoncé, ça vend beaucoup et ça gagne beaucoup d'argent, je pense, parce qu'elle l'a accusée dans une de ses chorégraphies d'avoir plagié un de ses gestes. Donc on arrive à des trucs, waouh! Et les artistes sont en tête, hein, donc là, dans ce combat.
En même temps, je l'ai vu, puis effectivement, Beyoncé, elle a vraiment pompé, là. Qui à la fois belle et tragique.
Michael Lachance.
Donc c'est tout récent, c'est en mars 2011. C'est un petit, je vous présente quelques secondes d'un, des nouvelles de Sky News, où on nous apprend, et où je pense que vous êtes au courant, qui est donc eu directement impliqué comme victime directe, si vous voulez, de Fukushima, deux ouvriers qui ont été contaminés lorsqu'ils sont descendus dans une des fosses, qui se sont trouvés les pieds dans l'eau, et l'eau était hautement radioactive. Donc c'est la brûlure, radiation burn, c'est vraiment, on en est là. Et ils ont ensuite été escortés, tout de suite lorsque ce contact a été fait, qu'il a été constaté par les compteurs GGR, étaient escortés, acheminés vers l'hôpital. Donc ce qu'on voit, c'est tout simplement le cortège qui accompagne donc ces deux bonhommes qui les amènent dans un camion, mais qui les soustrait à la vue tout à la fois, puisqu'ils sont en même temps la preuve qu'il y a un accident, quelque chose qui est de nature de nous... Tant qu'on avait des hélicoptères qui passaient par-dessus les bâtiments, ce n'était pas de nature à nous inquiéter. Mais l'idée que de voir des gens atteints, et c'est tout de suite, là, à ce moment, il y a une inscription. Et donc, c'est ce qu'on voyait sur Sky News. Et vous me direz, sur le plan cinématographique, c'est quand même intéressant, cette espèce de grande voile bleue. Vous savez ce qu'on appelle le blue screen aussi, hein, ce grand voile bleu qui occupe toute tout l'écran, quoi. Je veux dire, j'ai trouvé ça. Et là, on voit des pieds. On comprend. Bon, ben, c'est des gens qui sont pas en hazmat suit. Oui, c'est une autre forme de hazmat suit pour se protéger des radiations nucléaires. Et donc, je vais vous le présenter.
The tarpaulins can't hide the fact that something here at Fukushima has gone badly wrong. Being rushed to hospital, some workers have been exposed to horrific levels of radiation by stepping in contaminated water in the basement of the badly damaged Unit 3 reactor plant.
The radiation level of the water which affected the injured is 10,000 times higher than the usual level.
The tarpaulins can't hide the fact that something here at Fukushima has gone badly wrong. Being rushed to hospital, some workers have been exposed to horrific levels of radiation by stepping in contaminated water in the basement of the badly damaged Unit 3 reactor plant.
The radiation level of the water which affected the injured is 10,000 times higher than the usual level.
Oui, donc Alain, qui a connu une expérience assez semblable.
Alain de Clercq.
En fait, j'étais en train de faire la post-production d'un film donc, qui s'appelle Mike et qui, à l'époque, n'existait pas encore. J'avais tous les rushs de tournée depuis... ça faisait 3-4 ans que je bossais sur le projet. Et puis, donc, j'étais pas chez moi, j'étais dans mon lieu de résidence à Bordeaux. Il m'avait invité pour faire le montage vidéo. Et en fait... Pour être très rapide, le but de ce film était de rassembler différents rushs que j'avais fait à travers le monde pendant des voyages, des sortes d'enquêtes, etc. Et j'avais pas mal de matériaux très très hétéroclites et avec comme lien un personnage. Tout est filmé en caméra, non pas une caméra subjective, mais une caméra portée, où on voit que quelqu'un a une caméra en main et qu'il utilise sa caméra comme une sorte de carnet de notes. Donc il parle à sa caméra, il filme certaines choses, il y a une voice-over qui raconte un peu tout ce qu'il fait. Et c'était le postulat de départ de ce film que de faire un document, un film leurre, où j'espérais que les gens s'interrogent sur la validité de ce document. Est-ce que c'était un vrai personnage ou est-ce que c'est une fiction totale ? Et puis, bon, j'ai jamais pu expérimenter la chose, puisque alors même que le film n'était pas terminé, j'ai eu donc une perquisition de la brigade antiterroriste qui est venue dans ma chambre. Hein. C'était une maison qui était accolée à un théâtre, donc le TNT à Bordeaux. Donc c'est des gens que je connaissais pas du tout d'ailleurs. J'étais juste là pour dormir et monter ailleurs. Et puis donc au petit matin, voilà, il y a quand même 15 flics armés qui arrivent et qui... Donc, il m'accuse d'un truc assez énorme, hein, quand même. Bon, tout n'est jamais très, très clair, mais en gros, je comprends qu'il me suspecte d'être la base arrière d'Al-Qaïda en France. Et surtout parce que c'est là que je comprends bien aussi toute l'histoire avec Kurtz, etc. Moi, c'est bien mieux fini. Mais en tout cas, c'est la même logique, quoi. C'est que... Ce qui m'apparaît clairement ce jour-là, c'est que la fiction, elle est totalement dans l'univers policier. C'est-à-dire, eux établissent des scénarios extrêmement complexes. Et donc, moi, en fonction de mes écoutes téléphoniques, des billets d'avion, etc., ils ont conclu que je suis l'espèce de chaînon manquant entre Al-Qaïda et l'ETA espagnol. Non, mais tout ça a été assez tordu. Hein, mais l'impact du document dans le champ plastique, ça, j'ai jamais plus le tester, puisque donc l'histoire s'est désamorcée au moment même où les flics sont arrivés. C'est-à-dire que moi, ce que je trouvais intéressant à ce moment-là, je vais passer sur le côté vraiment pathos de l'événement, parce que c'est quand même très compliqué à vivre, hein, cette histoire, c'est que j'essayais de créer un personnage en interrogeant est-ce qu'il est crédible, et la brigade antiterroriste vient me voir en me disant qui est ce personnage. Donc c'était une certaine façon une validation de mon boulot. Bon, maintenant je me serais quand même bien passé de leur visite. Et puis surtout, c'est quand même très compliqué de comprendre que ça fait des mois qu'on est sur écoute téléphonique, qu'il y a des flics jour et nuit devant l'appartement, etc. Donc évidemment qu'à tout moment, moi je suis familier de ce genre d'histoire, hein. Je sais très bien que les flics n'attaquent jamais, c'est pas qu'ils attaquent jamais frontalement, c'est qu'il y a toujours une porte de secours qui va les sauver s'il y a vraiment quelque chose à exploiter, quoi. Et donc, même si après quelques heures, j'ai quand même bien compris qu'ils avaient vu que j'étais pas terroriste et surtout que j'étais pas clandestin. Moi, je ne cessais de leur expliquer que j'étais pas dans la clandestinité, mais au contraire, j'essayais de faire en sorte que mon travail soit montré dans les expos, etc. Mais ce qui est... parce que c'était pas non plus juste idiot, ce qu'ils racontaient. Moi, je trouvais ça absurde, mais c'était pas idiot. Ils essayaient quand même de construire des histoires à partir de faits, d'événements, de gens que je rencontrais, etc. Mais il y a des moments où ça devient comique, en fait. On n'arrive pas à comprendre comment ils tirent ces liens-là.
Mais je veux faire une remarque tout de suite aussi, ici. C'est que quand vous êtes attaqué de cette façon... D'un côté, vous êtes en position de faiblesse si vous êtes tout seul à expliquer. Mais non, ce que je voulais faire, c'est ça. Mon intention, c'était ci. Regardez, c'est public. Ce que je fais, j'affiche ouvertement ce que je suis en train de faire, etc. Donc, mais en même temps, l'artiste qui travaille de façon isolée est plus faible. Mais tout à la fois, il y a nécessité pour les artistes de créer des réseaux pour effectivement se surveiller les uns les autres, se prêter main forte. Pouvoir assister sur le plan juridique ou autre. Donc à ce moment-là, lorsque les artistes commencent à établir des collaborations, des complicités de cette nature-là, ça paraît encore plus suspect. Et ce que j'entends bien dans l'aventure de Mike, c'est qu'il n'y avait pas seulement Alain Declercq qui était derrière ça. Il y avait sans doute tout un groupe, et on voulait découvrir le groupe. Ils étaient surpris de voir qu'il y avait juste un individu, un artiste, sa création, son travail, sa démarche.
Moi, par exemple, j'étais pas dans mon lieu de résidence. C'est-à-dire, c'était une grande maison où il y avait, je sais pas, au moins 7 ou 8 chambres, avec des compagnies de théâtre, etc. Et moi, j'ai quand même vu pas mal de groupes qui pouvaient laisser aussi pas mal de traces de cocaïne, de choses comme ça. Et moi, tout d'un coup, j'ai flippé, quoi, parce que je me suis dit, hein, ça me ferait vraiment chier d'être inculpé de trafic de drogue, quoi. Et donc. On n'est jamais à l'abri de ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est très difficile de savoir comment se sortir de la situation. Et même j'ai appris aussi pas mal de choses très intéressantes. Par exemple, moi je disais mais je suis artiste, il y a pas de problème, je suis pas dangereux. Et eux me disaient que finalement c'était une très bonne couverture être artiste.
Oui.
C'est que
ce qu'on dit le FBI pour cœur.
Bien sûr. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est vrai. Par exemple, il y a aussi une tradition, mais enfin c'est pas ça a existé comme ça que le Mossad, par exemple, envoie des agents comme étudiants dans les écoles d'art. Ça existe. Bon, donc il y a les journalistes, il y a les artistes, il y a quand même des professions, les gens des centres culturels. Donc il y a des gens qui peuvent masquer des vraies activités terroristes avec cette planque-là. Donc c'est très compliqué de désamorcer les choses, quoi.
C'est
c'est la meilleure planque de... On se cache derrière une exhibition. On est dans une forme d'expositionnisme, qui est la maladie de l'artiste, qui doit exposer, qui doit se faire voir, une recherche de visibilité. Et cette activité même-là devient une meilleure façon de se cacher.
C'est impossible à définir. Qu'est-ce qu'un artiste ? Enfin, c'est très difficile à savoir. Même les artistes ne savent pas, donc...
Mais en tout cas, de cette expérience, je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé ce jour-là, c'est que je logeais cette nuit-là. Donc il était là pendant la perquisition et il était journaliste. Donc la presse était là. Et forcément que... j'ai pas été violente.
Non, mais on sait qu'il y a eu des fuites, et tu savais qu'ils venaient. Parce que tu as des hommes planqués dans...
D'ailleurs... lui, il a pu discuter quand même de manière un peu plus privée avec le commissaire de la brigade anti-criminelle, parce qu'ils sont venus à deux brigades. Mais en fait, c'était une perquisition de la brigade criminelle, mais ils étaient accompagnés de certains flics de la brigade antiterroriste de Bayonne, puisque c'était mon rapport à l'ETA qui cherchait. Ah ouais. Et j'avoue que c'est quand même les types de la brigade anticriminelle qu'ont compris le plus rapidement. Quoi. Au bout de quelques heures, j'ai entendu qu'ils disaient aux flics de la criminelle « C'est bon, quoi, la prochaine fois, appelez-nous pour des trucs sérieux. » j'ai compris quand même qu'il y avait une dénonciation, mais je pense qu'une dénonciation au moment de la perquisition. Mais après, sur... comment et depuis combien de temps j'étais sous écoute, ça c'est impossible de savoir. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient un dossier épais comme ça, et qu'ils tournaient les pages et ils me disaient « Alors, le 12 mars, t'as appelé telle personne, pourquoi ?» Et évidemment, donc j'ai compris que ça faisait un moment que ça durait. Quoi.
Mais ça jouait, le fait qu'ils étaient deux brigades, et que ça jouait, on peut dire d'une certaine façon, en ta faveur, mais ça peut aussi jouer dans l'autre sens. Donc il y en a une qui ne veut pas perdre la face, donc qui surcharge pour être sûr, que pour ne pas avoir l'air des cons par rapport aux autres. Là, qui... Non, c'est sérieux, on est sur un coup.
Alors, c'est le film et moi, c'est très compliqué. Il se trouve que de toute façon, Mike, c'est moi. Quoi. C'est à aucun moment. C'est-à-dire que j'ai pas tellement parlé du film, mais le film, c'est vraiment moi qui filme tout en caméra portée. Et puis, à certains moments clés du film, j'ai pris un acteur qui joue le rôle de Mike et qui retourne la caméra vers lui et qui parle face caméra, et là c'est pas moi, mais tout le reste du temps c'est moi qui ai fait le film, donc pour eux c'était très ambigu aussi, je pense, de comprendre qui avait filmé quoi. L'ambiguïté tenait, quoi.
Quand tu dis par exemple qu'on apprend des choses, par exemple une petite chose qu'on apprend, c'est que si les agents du FBI, en France c'est pas... Mais si les agents aux États-Unis, vous avez des agents de FBI qui arrivent à votre porte et qui disent « Est-ce qu'on peut rentrer ?», vous devez dire non. Et là, ils vont vous dire « Vous ne voulez pas qu'on rentre, mais nous, on va rentrer quand même. » Alors, vous leur dites « Oui, je ne veux pas vous rentrer, mais je constate que vous rentrez quand même. » Vous devez dire ça. Si vous dites ça, à ce moment-là, tous les objets qu'ils vont trouver dans la maison ne sont pas admissibles au procès. Alors que si ils disent « Écoutez, on aimerait expliquer des choses avec vous, est-ce qu'on peut rentrer discuter ?» et vous les laissez rentrer, là, à ce moment-là, tout ce que vous avez chez vous, les ordinateurs et tout, c'est admissible. Et ça peut être retenu contre vous. Donc c'est des petites choses qu'on apprend, quoi.
Par exemple, moi, j'ai quand même signé un PV d'interrogatoire et un PV de perquisition, et j'ai rien. Je n'ai absolument aucun document. Ils sont même partis avec la poubelle parce qu'ils sont venus avec leur imprimante, et je me délectais déjà de voir qu'ils avaient fait une copie qui était mal imprimée. Donc ils l'ont déchirée, mis dans la poubelle. Et je me suis dit, au moins j'aurai ça. Et même pas, quoi. Ils sont partis avec la poubelle.
Vous écoutiez Les Œuvres Bombes, une rencontre débat enregistrée le 11 novembre 2011 dans le cadre de la 24e édition du festival Les Instants Vidéo. Vous y avez entendu les artistes Pascal Lièvre et Alain de Clercq, ainsi que Michael Lachance, auteur de Œuvres Bombes et Bioterreur, L'art au temps des bombes, un ouvrage publié en 2007 aux éditions Inter et production New Al Dante.